What is this, Connor? Easy, old man. She's not hurt?
No.
Not wounded, sir.
Great easy.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dice? Come fa che dice?
Bonjour à toutes et à tous, les amoureux, les amoureuses du cinéma. Bonjour et bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche avec passion et enthousiasme. À l'affiche aujourd'hui des films français qui lorgnent du côté des États-Unis et un film américain qui s'inspire de la France, du mélo, de l'amour, du deuil, bref, du cinéma. Avec René et son grand
retour.
Bonjour René. Avec également Alexis. Salut Alexis.
Hello les cinéphiles.
Et Olivier.
Et son TikTok habituel.
Et son ses tics.
Voilà.
Oui, ouais.
Exactement.
Habituel. Et aussi ses TikTok habituels. Non, c'est TikTok. Ah du coup, c'est tac. Toi tu es tac. Toi tu es tac Sylvain. Bonjour.
Et tac. Bonjour.
On va discuter ensemble de pas mal de films. D'abord, Chien 51, Deux pianos, Moi qui t'aimais, Nouvelle Vague. On reparlera de Toy Story, de Moulin Rouge peut-être, ou en tout cas des Escales du patrimoine, puisque Moulin Rouge n'est plus à l'affiche, et La vie de château. Et bah, c'est parti, on commence avec du cinéma français qui s'empare de la question de l'IA après Mrs. Dalloway. Voici un autre film.
Le programme ALMA et son inventeur Georges Kessel sont les ennemis du peuple.
ALMA, reconstitution.
On m'a verrouillé avec une flic de la zone 2, il faut que j'enquête avec elle.
Sur l'assassin de Kessel.
On a pris en chasse un véhicule noir, pas d'identité associée.
Nous allons construire une société meilleure.
Regarde-moi, sale merde.
Plus juste. Plus sûr.
Mais une fois que je serai sous les verrous, le gouvernement va classer définitivement l'affaire.
Vous devez continuer l'enquête. J'ai confiance en vous. Je connais votre histoire.
Chien 51 de Cédric Jiménez. On a pu entendre Adèle Exarchopoulos. On a entendu Romain Duris. Tu disais, Olivier, qu'il était flippant. Gilles Lelouch, Valérie Bruni-Tedeschi, etc. Pour l'adaptation d'un roman de Laurent Godet, René, tu souhaitais parler de ce film.
Oui, tout à fait. Alors oui, dans un roman de Laurent Godet qui a été très profondément transformé. Dans le roman de Godet, il n'y a pas, je crois, autant d'allusions à l'intelligence artificielle. Oui, ça paraît bizarre. D'ailleurs, je ne comprends pas trop, parce que c'est tellement central au film. Enfin bon, je n'ai pas lu le roman. Alors, on est à Paris, en 2045, dans un futur proche, c'est important. Paris est divisé en zones correspondantes aux classes sociales et surveillé par une intelligence artificielle nommée ALMA. Lorsque l'inventeur d'ALMA est assassiné, Salah, une enquêtrice d'élite de la zone 2, alors un mot sur les zones, zone 1, 2 et 3. La zone 1, c'est les gens, c'est le pouvoir, en gros. La zone 3, c'est vraiment le bas de l'échelle, c'est les gens très pauvres qui vivent dans des favelas, dans des quartiers pourris. Et la zone 2, c'est une zone intermédiaire, c'est une zone de promotion, une sorte de purgatoire où peuvent accéder les ceux de la zone 3 quand ils réussissent des concours ou des trucs idiots à la télévision, par exemple, des choses comme ça. Okay. Voilà donc comment ça fonctionne. Et donc, cette enquêtrice d'élite, elle est accompagnée d'un policier qui s'appelle Zem, qui est désabusé, désillusionné, qui lui vient de la zone 3. Et ils sont appelés à travailler ensemble pour trouver le coupable. Leur enquête va vite dévoiler une vaste conspiration qui remet en cause l'ordre établi. Alors, ce film est à la fois un film de science-fiction, un film policier et une dystopie. Et je l'ai trouvé convaincant sur les trois registres. Mais personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la dimension plastique du film. L'IA est omniprésente avec ses écrans virtuels, ses bracelets connectés que les personnages sont contraints de porter et que la police utilise pour les identifier, ses drones qui s'insinuent partout, à l'extérieur mais aussi à l'intérieur des bâtiments pour poursuivre et trucider les gens qu'ils poursuivent, partout. Et cette omniprésence de l'IA, je la trouve bienvenue car le propos du film est là, l'avenir inquiétant que nous promet cette intelligence artificielle. Alors, il se trouve que ce matin même, je suis tombé sur un article du Monde intitulé « L'intelligence artificielle, un nouveau personnage de cinéma ?» Point d'interrogation. Alors, c'est tout à fait en accord avec le film, avec un sous-titre alternant entre le plein et le vide de l'incarnation humanoïde à une simple voix off, en passant par des robots, les représentations de l'intelligence artificielle se multiplient de plus en plus dans les films, souvent au centre des intrigues. Et alors, le film Chien 51 est la parfaite illustration de ce phénomène. D'ailleurs, bien sûr, l'article le cite abondamment. On peut même dire que l'article a été écrit à propos de ce film et à propos d'un autre film analogue. Mais ce n'est pas la seule réussite de ce film. Les deux acteurs principaux, par exemple, Adèle et Gilles Lellouche, sont excellents. Ils incarnent des personnages très contrastés. L'image est d'une très grande efficacité, en ce sens qu'elle rend si prégnante cette omniprésence de l'IA, qui est le véritable personnage principal du film. En effet, l'IA a un nom de femme, Alma, et c'est tout à fait ça. C'est le personnage obsédant du film.
L'âme aussi, Alma.
En plus. Ouais. Voilà, mais alors l'âme au sens noir du terme.
Peut-être, oui.
La mise en scène est très maîtrisée, je trouve, avec des scènes difficiles à réaliser, avec beaucoup de personnages, des mouvements de foule, un apport énorme des effets spéciaux à intégrer à tout ça, sans que ça fasse collage, et non, c'est très intégré au film. De ce point de vue, c'est un film très maîtrisé, mais je pense que Jiménez, vous pouvez en parler mieux que moi, fait des films assez complexes, en général, de ce point de vue.
Quand on voit Bac Nord, et c'était novembre, de mémoire, novembre, c'est ça. Il est, c'est sa spécialité, hein, c'est sa patte sur le sujet, et c'est très... très maîtrisé, et c'est ce que disaient aussi dans les interviews Adèle Exarchopoulos et Gilles Lellouche, c'est que justement, eux, c'était leurs attentes par rapport à ça, et même Gilles Lellouche a fait ses quelques propres cascades, Adèle a été assez traumatisée par ces scènes de cascades assez violentes, et c'est vrai que c'était hyper intéressant, et on s'y projette, et c'est d'ailleurs aussi les grandes forces du film, et ça a toujours été sa force, c'est les grandes scènes d'action qu'il y a dans ce film-là, et moi, j'ai été très, très hypé par ce film parce que j'ai eu beaucoup de références via Blade Runner ou Le Cinquième Élément, où on peut s'y retrouver aussi dans le personnage de Bruce Willis et Gilles Lellouche. Et moi, j'ai dit... Courons-y. Même si les critiques sont très divisées, je ne sais pas forcément pourquoi. Je pense que de toute façon le type film science-fiction est très compliqué à faire adhérer à tout le monde. Mais allez voir, parce que justement ça nous sort un peu des codes habituels. C'est un film aussi de divertissement, il faut le dire, et de très bonne qualité.
Tout à fait. Oui, alors bon, je parlais de la mise en scène, je parlerai aussi du montage, qui est très efficace, avec cette alternance de scènes très rapides. Je pense aux premières scènes du film qui vont à 100 à l'heure, très spectaculaires, et puis, et porteuses de sens, bien sûr, parce que ça va très vite, c'est de l'assassinat en temps réel, si j'ose dire. En contraste avec ça, on a des scènes plus lentes qui soulignent l'évolution des rapports entre les deux personnages principaux. Donc tout cela fonctionne à merveille. Bon, alors quelques scènes peut-être un peu racoleuses dont on se serait passé, mais ça, c'est pas grave. Et une thématique, celle de la technique qui s'empare du pouvoir, qu'on a déjà beaucoup vu dans les romans, qu'on a déjà beaucoup lu dans les romans de science-fiction et beaucoup vu à l'écran. Mais bon, la thématique n'a pas vocation à se révolutionner, elle est presque éternelle. Voilà, mais bon, c'est un film d'une grande efficacité. Comme l'a dit Alexis, c'est un film, un excellent film d'action et une illustration très réussie des dangers qui nous guettent avec l'intelligence artificielle.
Eh bien, Allons-y donc, et ça tombe bien puisqu'il sort dans pas mal de salles ici en Sud-Ardèche. Il est au Navire à Aubenas, donc à Ruyons, et bientôt à Rosières, à Vals et au Vence.
On y croit.
Oui. On continue. Alors, je ne sais pas comment faire transition parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup là, avec deux pianos.
J'étais dans le parc hier. J'ai levé les yeux. Je me suis vu. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Est-ce que t'as volé ça ? Attends, t'as volé une photo de mon fils ? Pourquoi tu montes ça maintenant ? Va-t'en !
Ce soir, tu vas jouer pour moi, à ma place.
Non.
Je vais arrêter.
Je peux pas vivre avec ça.
Tu vas apprendre.
Qu'est-ce que t'attends ?
Toi. Tu voulais pas de moi ?
Non, non.
Et tu veux toujours pas de moi ?
Non.
J'attendais beaucoup plus. Tu es médiocre, je veux du travail. Je préfère être seul, comme toi. Tu es tout seul. Sois brillant demain soir.
Je sais pas ce que vous voulez réparer, mais parfois dans la vie, il faut laisser les choses foutre le camp.
Mais non, vous restez à l'écoute de Fréquence 7 et de Cinémascope. Ne foutez pas le camp tout de suite. Dans le cinéma français, j'ai l'impression qu'on règle beaucoup ses comptes avec son passé, sa jeunesse en ce moment, avec pas mal de films autour de ces questions-là. Et puis la musique aussi qui revient. Tu es allé voir donc deux pianos d'Arnaud Desplechin. Olivier.
Oui, je suis un peu un habitué de Desplechin et de son cinéma, effectivement. Alors, comme tu le disais, il n'y a aucune transition avec Chien 51, on est bien d'accord. Et je crois que Desplechin poursuit son travail presque de romancier. C'est un cinéma qui est extraordinairement littéraire, oui, depuis Conte de Noël, depuis très très écrit, effectivement. Et donc un cinéma très littéraire, très romanesque, et avec donc, on parlait de genre tout à l'heure, et bien là le genre romanesque avec son...
Style 19e, tu veux dire ?
Non, pas nécessairement, quoique un peu, début 20e aussi, un peu proustien quand même, hein, dans l'ambiance. Dans le type de travail, c'est-à-dire que bon, si le genre romanesque est le genre du personnage, c'est un peu le genre de l'ego, hein, qui c'est le genre du soin de l'ego. On se regarde beaucoup dans le roman, effectivement, et puis on regarde son parcours. C'est un peu l'idée. C'est pour ça que alors tu parles de soucis contemporains autour de ça. Je pense qu'on vit une période où effectivement chacun voudrait être un héros de roman, chacun voudrait vivre un parcours exemplaire d'une certaine manière. Et la rentrée littéraire, la dernière rentrée littéraire, mais aussi la dernière rentrée cinématographique, laisse effectivement une grande part à l'adolescence, c'est-à-dire à la période où on se construit, laisse une grande part, on le voit même avec Chien 51, sur les différences sociales et les possibilités d'emprunter l'ascenseur social pour changer. Ce sont des thématiques très romanesques et qui aujourd'hui sont prises en charge en littérature par ce qu'on appelle l'autofiction. Donc quand tu dis qu'effectivement le cinéma aussi, durant cette rentrée, règle beaucoup de comptes de soi à soi et de soi à son entourage, ça paraît une évidence. Alors là, ce qu'il faut commencer par dire, c'est que c'est le travail de Desplechin depuis des décennies. Cet homme, il a 60 ans et je sais pas combien. Mais c'est vrai qu'il est sans arrêt rattrapé par cette problématique de l'examen de l'ego, de l'examen du parcours de soi comme personnage dans la vie, à tel point que quand il fait Spectateur, par exemple, qui est apparemment un film sur le cinéma, on s'aperçoit très vite que c'est un film sur un amateur de cinéma. Et on se retrouve pas très très loin des problématiques de la Nouvelle Vague, justement. Oui. Hein, voilà, bon. Et quand il fait Jimmy P, pour Jimmy Picard, la psychanalyse d'un Indien des Plaines, on est presque dans le documentaire ou le documentaire historique, mais en fait, Georges Devereux, c'est peut-être un peu un Desplechin savant, hein, qui s'occupe d'un ego, celui de Jimmy P qui est brisé. Alors on est, je vais pas faire le spécialement le synopsis du film. Il s'agit de ça. Il s'agit du parcours de Mathias qui est pianiste et qui après un long séjour au Japon.
François Civil à l'écran.
François Civil est vraiment très bon acteur, hein, qui revient après une assez longue période dans son Lyon natal, où là il avait commencé son parcours justement de personnage, et rencontre d'un ancien amour, rencontre troublante d'un enfant qui lui ressemble, enfin des rencontres qui permettent à Desplechin de filmer, comme un romancier écrirait, de filmer les avatars d'un ego qui se cherche, se retrouve, se repère, se recherche. Alors, effectivement, on a envie de dire, bon, soit on est amateur de ce travail et on suit avec une espèce de curiosité, de passion renouvelée ce travail d'Arno Desplechin, soit effectivement ce côté littéraire, égocentré sur des petites histoires privées nous fatigue, et à ce moment-là, on risque d'être très fatigué par le film. On
et
est
on
bien
va
d'accord.
Voir Chien 51.
Et on va voir Chien 51, exactement. Donc moi, vous aurez compris, je suis plutôt du clan de ceux qui suivent Arno Desplechin, et j'ai trouvé un grand plaisir à cet exercice d'exploration des intériorités qui est tout de même, c'était déjà le cas dans Conte de Noël par exemple, extrêmement sophistiqué. C'est-à-dire que soit on met en avant la lourdeur éventuelle du procédé et de ce qu'il donne, soit on met au contraire en avant sa subtilité et son insistance à chercher. Je parlais de Marcel Proust tout à l'heure. On pourrait dire la même chose de la phrase proustienne, où est-ce que c'est trop long? Elles sont pas si longues que ça, les phrases de Proust, en fait. Mais est-ce que c'est trop long ou est-ce que c'est fascinant de ciselure et d'investigation? Voilà.
Eh bien, ouvrez vous-même un livre de Marcel Proust ou allez au cinéma voir Deux pianos d'Arno Desplechin. C'est au cinéma à Aubenas et ce sera bientôt à Rosières et à Valls. Question d'amour encore, peut-être une histoire d'amour française.
Moi, je pense qu'on devrait faire un film sur nous, nos vies, nos engueulades. Ce serait très triste et très drôle.
Mais il continue à sauter sur tout ce qui bouge ?
Oh bah évidemment. Pourquoi tu veux tout le temps voir ailleurs ?
On en a parlé 100 fois. On n'est pas pareil. Toi et moi, on n'est pas pareil.
Mais c'est vous, là, avec Marilyn.
T'en auras fait baver, celle-là, hein ?
J'aurais pu la tuer.
Ne pars pas.
Arrête ça, je pars pas.
Ça marche, terminé, hein.
C'est une chanson qui nous ressemble.
Mais oui, mais c'est aussi des histoires d'ego et de cinéma et un peu d'Amérique qui vit à Marilyn, qui se met là-dedans dans cette, enfin, comme un grain de sable. Moi qui t'aimais, donc de Diane Curis avec Roche Dizem qui joue Montand, Marina Foïs qui joue Simone Signoret notamment, et Alexis qui nous parle de tout ça.
Et oui, et alors pour dire déjà, je déteste les biopics. C'est un truc où on part vite dans le mimétisme et on essaye en tout cas de regarder toutes les mimiques de chaque personnage, s'il est bien joué, s'il est bien en tout cas retranscrit. Et là, en fait, on passe directement un contrat avec le spectateur, c'est que c'est un biopic, mais ce n'est pas réellement un biopic. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une mise en abîme des personnages. Donc, on voit Roche Dizem et Marina Foïs en scène d'ouverture en train de se faire maquiller avec des perruques. Pour dire aux spectateurs, vous allez voir pratiquement une scène de théâtre. Donc, c'est des personnages que vous allez interpréter. Et donc, c'est à nous, en tant que spectateurs, de se dire oui ou non. C'est-à-dire qu'on adhère ou on n'adhère pas. Et donc, à partir du moment qu'on adhère, je pense qu'on ça marche. Et à partir du moment qu'on n'adhère pas, ben, c'est fini pour nous. On a déjà décroché. Donc, c'est aussi un parti pris quand même que moi, je n'ai jamais vu au cinéma, qui m'a fait quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous, dans vos connaissances, vous avez un film qui aurait pu... voilà, moi, je n'ai pas trouvé, en tout cas.
Tu aurais pu quoi ?
Trouver une espèce de mise en abîme dès l'ouverture avec une perruque, etc. Parce que c'est aussi assumer tout le film, c'est-à-dire qu'on voit les perruques, on voit les scotchs des perruques, etc. Donc ce n'est vraiment pas caché. C'est vraiment des transitions comme une scène de théâtre.
Au Rencontre Cinéma d'Europe, il n'y avait pas... c'était quoi ? Little Girl Blue ? Non, c'était pas ça. Où elle prenait le rôle de sa mère.
Avec Marion Cotillard, oui, c'était encore différent, c'était entre le documentaire et mais ça pourrait se rapprocher à la limite. Donc j'aimerais d'abord revenir sur la genèse du film. La réalisatrice, donc avant de faire ce film, elle a lu quand même l'autobiographie de Simone Signoret en 1975, et en fait elle avait une fascination pour Simone Signoret, et en tant qu'actrice surtout, et c'est pour ça aussi qu'elle a écrit le scénario par la suite, avec, donc elle s'appelle Martine Moricani, et ensemble elles ont regardé aussi plein d'interviews du couple pour bien se renseigner, pour pas faire de bêtises. Forcément, quand on joue sur un biopic comme celui-ci, on a intérêt à bien être informé. Il faut savoir que le film donc s'attarde sur les 12 dernières années donc du couple Yves Montand et Signoret. On suit donc la vie de ce couple. À la base, c'était pas le cas. À la base, on voulait se centrer sur la vie de Simone Signoret.
Mais voilà. Le film a évolué. Le
a évolué au niveau du scénario. Parce qu'en fait, Marina Foïs ne voulait pas jouer à la base Signoret, tout simplement parce qu'elle ne se sentait pas capable. Et quand on voit le corps de Marina Foïs et de Signoret sur la fin des années, il y a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. On voit encore tout frêle, alors que Signoret est toute ronde et bouffie par l'alcool. Donc ça collait pas forcément. Donc il y a eu une recherche de scénarios différentes, et en fait on s'est plus attardé sur le couple, même si le film s'attarde quand même plutôt sur la vie de Simone Signoret et de son emprise. Donc ça va être ça plutôt le thème du film, c'est-à-dire qu'on va s'orienter sur l'angle de l'amour qu'il y a entre les deux, et plutôt de l'amour emprisonnant que vit Simone Signoret à travers Yves Montand, parce que malgré toutes les saloperies qu'Yves Montand va faire tout au long de sa vie, dont Marilyn Monroe, où il va, d'ailleurs il est aussi connu pour ça, c'est-à-dire que il a couché avec Marilyn Monroe, la plus belle femme du monde à cette époque. Malgré tout ça, elle va rester dans cet amour d'enfermement,
toxique.
Emprise qui est presque, pour moi, presque à rebours d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, à l'heure d'aujourd'hui, si on était enfermé dans ce genre d'amour, on prend nos valises et on se casse, clairement. Enfin, en règle générale, je parle, sur des couples dysfonctionnels. Il reste encore des histoires toxiques. De l'extérieur, bien sûr.
Mais de l'intérieur, c'est toujours la même question. Voilà. D'où l'emprise.
Mais la question est que, ce film ne prend pas parti. C'est-à-dire qu'on va juste suivre un amour fusionnel, universel, qui va avoir une forme de décrépitude tout au long du film, et peut-être même qui s'essouffle au fur et à mesure. C'est-à-dire que les 12 dernières années, c'est long. On les voit s'épuiser, et on sait la fin, en fait, quelque part. On sait qu'ils finissent ensemble, on sait qu'ils meurent ensemble. Et sur ça, il n'y a pas de souci. À la limite, ça va peut-être un peu trop loin. Et en fait, ce qu'on veut nous montrer, c'est que quelque part, ils sont tous les deux victimes de leur amour. Ils ont vécu différent leur amour à des degrés différents. Mais j'ai envie de dire, en fait, ce qu'on en retient, c'est la pauvre. La pauvre, mais en même temps, elle a été victime de ce qu'elle a créé aussi, donc c'est-à-dire qu'elle s'est enfermée dans cet amour. Et en même temps, on ne veut pas juger à travers ce film-là, on regarde seulement ce qui se passe et là, est-ce que ce que cet amour peut entraîner, voilà. Et on voit aussi la chute de Simone Signoret, c'est-à-dire que à travers tout ça, ça reste une grande femme qui a fait des actions exceptionnelles, qui a été une grande actrice, qui a été oscarisée, qui est reconnue. Et à côté de ça, elle arrive à être enfermée dans un amour qui la bloque, qui la ferme. Et pourtant, avec les messages qu'elle a donné, on se dit
c'est Simone Signoret.
Et voilà. Et, oui. Et comme quoi, et bah, des fois, il suffit d'ouvrir la porte et de voir ce qui se passe. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, Moi qui t'aimais de Diane Curis, qui est à voir au Vence et au Aubenas. Et la semaine prochaine sera à Vals-les-Bains. On va passer toujours une histoire des Américains, enfin un Américain regardant le cinéma français Nouvelle Vague. La semaine dernière, Cathy nous en a parlé et nous a dit ceci.
Écoutez, moi c'est le film le plus enthousiasmant de l'année que j'ai pu voir, honnêtement.
Ouais, mais t'en vois pas beaucoup des films.
Alors, Olivier. Est-ce que donc tu es allé le voir après Cathy, après cet avis de Cathy?
Oui.
Est-ce que tu partages?
Oui, complètement. C'est-à-dire, enfin non, je dirais pas que c'est le film de l'année pour moi, pas du tout. Mais tout de même, oui, c'est un film qui réveille en nous
l'amour du cinéma et qui réveille en nous un désir de connaissance du cinéma. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est les fiches du cinéma qui parlaient d'un making-of de À bout de souffle, avec Nouvelle Vague ici, et c'est bien ce qu'on a sous les yeux. Et ça nous rappelle que le cinéma est d'abord un art industriel, c'est-à-dire qu'un film, c'est une entreprise. Il faut de l'argent, il faut beaucoup de monde, il faut beaucoup de métiers, il faut et que le cinéma c'est aussi un art de communauté. Il faut une communauté pour faire un film et le cinéma dans son ensemble est une communauté dont on sait que les lois sont parfois aussi impitoyables que celles de Dallas. Alors je trouve que ce film-là parvient à nous faire rentrer un peu dans la production-réalisation, évidemment, d'un film important dans l'histoire du cinéma, puisqu'il s'agit de À bout de souffle. Et puis, il arrive peut-être à nous faire aussi voir de l'intérieur cette communauté au travail, quoi. Au travail ou pas, d'ailleurs. C'est justement un peu la problématique du film. Alors, c'est parce que les acteurs parviennent à nous rendre proches. Gene Seberg, Belmondo, les acteurs arrivent à nous rendre proches aussi, Godard, Truffaut, Chabrol, etc. Parce que les acteurs ne sont pas connus et donc ils ne font pas écran entre nous et les personnages représentés, quoi. Donc je trouve que de ce point de vue-là, en termes de partage d'amour du cinéma et de partage de la connaissance du cinéma, ça fait deux très bonnes raisons d'aller voir ce film avec plaisir. Il y aurait presque une dimension didactique, mais qui, je pense, est complètement assumée et par conséquent n'alourdisse pas le propos, me semble-t-il. Et c'est vrai que j'avais envie de mettre en rapport ce film avec une autre entreprise qui sont bon, les Escales Patrimoine là au navire avec la collaboration de la Maison de l'Image, parce que ces Escales Patrimoine, elles nous permettent justement de cultiver notre connaissance du cinéma et de cultiver notre amour du cinéma. Suite à la critique d'Alexis de Moi qui t'aimais, j'ai envie de souligner qu'en décembre, il y aura Casque d'or avec Simone Signoret, par exemple. Donc, voir Casque d'or quand même au cinéma, je pense que ça vaut le déplacement. Et effectivement, les gens se déplacent un petit peu quand même.
Si je rebondis, c'est quand même pas le même impact visuellement, pas le même vécu entre sa télévision ou son écran portable et dans un écran de cinéma. Quelque part, c'est un contrat que tu passes avec toi-même et avec le cinéma en disant je viens pour vibrer, parce que les émotions, on dit les émotions grand écran, mais en fait on est en plein dedans, parce que tout est réuni pour passer un bon moment, en tout cas. Donc il faut défendre la salle.
Ouais, c'est cette démarche que à laquelle je tiens effectivement beaucoup, puis c'est le propos de Cinémascope, qu'on pas partager des émotions de cinéma, pas d'écran de télé.
Et j'aimerais tellement, j'y ai pensé hier soir parce que j'ai regardé Io, de Skolimowski, ouais. Et je me suis dit, mais mon Dieu, ça doit se voir sur grand écran. Ce film est extraordinaire, vraiment. Il est sur petit écran, sur Arte, sur la plateforme Arte, disponible. Et j'aimerais tellement qu'il soit à nouveau projeté sur grand écran.
Si je peux rebondir juste sur Nouvelle Vague, moi je l'ai vu, j'ai oublié de le dire, mais moi j'ai une vision complètement différente, mais je pense que parce que j'ai une haine profonde de la Nouvelle Vague, donc je crois que
comme Michel Simon d'ailleurs.
Ouais. On parle, ouais. Vas-y.
Mais moi j'ai juste
ton côté subjectif. Vas-y.
Je trouve. En fait, c'est un trip complètement du réalisateur. Je trouvais que c'était hyper égocentré, justement. Et j'aurais préféré avoir l'équipe de Truffaut qui fasse un making of du film que un réalisateur qui est plutôt fanatique de la Nouvelle Vague. Voilà, moi j'en reste ici. C'est pas du tout mon truc. Et j'ai du mal avec cette... Alors, je comprends que les spectateurs aiment, Mais personnellement, c'est moins mon truc. Et y a, je sais qu'il y a d'autres personnes qui le pensent. Et voilà. Mais c'est tout.
T'as pas pris la vague, quoi. T'es resté sur la plage. Oui.
Je pense que c'est une illustration supplémentaire qu'il y a un rapport entre la connaissance et l'amour. Hein, c'est-à-dire que la passion du réalisateur pour la nouvelle vague explique l'impact qu'il peut avoir sur des gens qui, a priori, sont aussi intéressés. Mais par contre, effectivement, ça a un effet répulsif pour quelqu'un qui ne supporte pas, par exemple, Godard. Je veux dire, là c'est sûr que tu en as pour ton argent. Ça, c'est...
Allez, on va sortir des placards des films pour enfants. Toy Story, alors on parlait de patrimoine ou de cinéma de répertoire. Toy Story a 30 ans.
Ah yes.
Et donc, au Vence, vous allez dimanche 29, le projeter.
Voilà.
Enfin, non, ce dimanche.
Ce dimanche, oui.
Je dis n'importe quoi.
À 16h30. Alors, on repasse mon petit bonbon. Voilà, le film qui a fait mon enfance. Et je suis très content de pouvoir le reprojeter au cinéma parce que moi, je ne l'ai jamais vu au cinéma. Ça a été l'année de ma naissance. Oh, je suis encore
95.
Jeune. Ouais, enfin, 96. Donc, moi, je suis 96, 95, le film. Donc, ouais. Donc voilà.
J'étais déjà vieux.
Et donc je suis hyper content de leur diffuser. Je l'ai vu maintes et maintes fois via d'autres supports, hein, DVD, Blu-ray, streaming, etc. Et plateforme de streaming, je précise. Hein. Et donc je suis content de pouvoir le rediffuser. Disney met les droits et c'est un grand film d'animation. Il a révolutionné en tout cas. Ça a été le début de Pixar, hein. Même techniquement, ça a été la révolution chez Disney. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, Pixar en est là, c'est grâce à Toy Story. Et Disney en est là aussi, c'est grâce aussi à Toy Story. Voilà. Donc,
et puis, il y a deux ennemis au départ qui collaborent ensemble, qui travaillent ensemble, oui. Si ça pouvait faire écho à certains.
Exactement.
Donc, Toy Story, pour les enfants aussi, il y a un autre film que tu es allé voir, oui. Dans ton optique toujours d'aller voir ce qu'on met entre Absolument. Les deux jeunes oreilles, deux jeunes...
Et derrière les yeux.
Et derrière les yeux et dans le cerveau.
Oui.
Tu es donc allé voir La vie de château, mon enfance, à Versailles, de Clémence Madeleine Perdria.
Oui, et donc deuxième belle surprise après la semaine dernière, Mary Henning l'experte de l'évolution des espèces à travers les fossiles. Là, cette fois, on a l'histoire donc d'une petite fille qui perd ses parents dans un attentat. Et une lettre laissée par sa mère indique qu'elle veut, sa mère, que la petite fille soit recueillie par son frère, donc l'oncle de la petite fille. Et cet oncle, il s'occupe de l'entretien de Versailles, en compagnie évidemment d'autres personnes, mais il est un petit peu au centre de l'entretien de Versailles. Alors on est placé devant deux petite vie toute minuscule, celle de la petite fille et celle de son oncle, et c'est rendu par le graphisme. Le graphisme qui nous donne les personnages, tous les personnages de ce film, est un graphisme extrêmement simple, une ligne claire avec des monochromes, hein, pour les vêtements, la chevelure, etc. C'est simplissime. Et ces personnages se déplacent dans un décor, alors que ce soit la ville de Paris, un peu les boulevards, ou que ce soit Versailles et le château. Là, le décor est beaucoup plus complexe, beaucoup plus fouillé dans le graphisme. Et donc, on a l'histoire de deux petites vies très modestes qui sont amenés à rayonner malgré le sale coup que leur fait l'existence au début du film. Ils sont amenés à rayonner comme le roi Soleil lui-même, Louis XIV, en son château Versailles. Il y a un symbole que je trouve assez beau dans le film, c'est que l'oncle qui entretient le château de Versailles a en particulier la responsabilité de ce qu'on appelle l'araignée, c'est-à-dire le système d'adduction d'eau dans tout le parc de Versailles. C'est ça s'appelle l'araignée parce qu'il y a un point central de l'eau, et puis tous les aqueducs souterrains qui permettent d'amener l'eau dans tous les bassins de Versailles. Et c'est un petit peu une image de ces personnages qui vont être amenés à sortir de leur coquille du sale coup que, encore une fois, que la vie leur a fait. L'oncle aurait dû avoir une carrière de danseur, il en a été empêché. La petite fille, évidemment, ça démarre mal avec la perte de ses parents. Et comment ça va rayonner? Et il y a un personnage intermédiaire, justement, qui, de ce point de vue-là, est intéressant. C'est une sorte d'assistante sociale qui s'occupe du placement de la petite fille, qui est aussi un personnage graphiquement simple, et dont la voix est celle de Anne Alvaro. Et je crois que c'est peut-être la première fois que je reconnais et trouve en même temps tellement adapté une voix d'actrice pour un personnage d'animation. Donc c'est un film qui, en plus, je finis rapidement, si je compare avec Marie Hennings, a aussi le présente aussi l'avantage d'être assez juste du point de vue historique. Et ça, tu disais, mon souci de donner aux enfants des choses qui sortent des clichés pour s'approcher un peu plus, si possible, de la réalité historique des événements qui sont décrits, quoi.
Ce qui est juste... Et j'ai une question, je ne sais pas si tu vas savoir y répondre. En 2021, il y avait déjà La vie de château, mon enfance à Versailles, qui durait 48 minutes. Est-ce que ça, c'est la version longue ou alors c'est autre chose?
Alors, je n'en sais rien du tout. Et c'est vrai qu'au navire, quand je suis entré pour aller voir ce film, on m'a parlé de ce dont tu me parles. Je m'étais promis d'aller chercher. Et mea culpa, je ne l'ai pas fait.
Eh bien, on en parlera la semaine prochaine. Avant de nous quitter, une dernière chose pour les enfants. Donc, soit effectivement La vie de château, mon enfance à Versailles, soit Toy Story, qui sera donc dimanche à 16h30, c'est ça. Dimanche à 14h, il y a aussi Auteuil, Falcon Express, de Benoît Dafis et Jean-Christian Tassi, avec une séance suivie avec une rencontre avec Romain Musso, qui est chef compositing du film, et c'est pour échanger autour des métiers de l'animation et les coulisses de la fabrication d'un film. Donc ça, c'est dimanche à 14h, Auteuil. Voilà. Nous, on se retrouve vendredi pour encore plus de cinéma. Et bonne séance à tous et à toutes.
Au revoir.
Ciao, au revoir.